RFI. RFI, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal Afrique. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Et ce sera l'Est de la RDC pour débuter ce journal avec des combats hier encore au Nord Kivu. Constaté au sein même de la ville de Walikale où la situation est préoccupante. Le conflit continue donc en attendant que soit précisé l'éventuel cessez-le-feu consenti par Félix Tshisekedi et Paul Kagame mardi au Qatar. On reviendra d'ailleurs sur les coulisses de ce rendez-vous et sur les réactions qu'il a provoquées. 18 milliards de francs CFA décaissés au Gabon, quelques 27 500 000 euros. Libreville annonce régler sa dette auprès de la Banque mondiale. L'administration américaine qui planche sur les questions de sécurité nationale et qui prépare pour cela une nouvelle liste de travel ban, c'est-à-dire une liste de pays à partir desquels les voyageurs ne pourront plus se rendre aux États-Unis ou sous condition. Pour l'heure, 22 États africains sont inclus. Et puis quand le ramadan rime avec excès, une fois la nuit tombée, alerte des médecins, ce sera notre dossier ce matin au Sénégal. Les combats sont violents au Nord Kivu et ils se sont donc poursuivis hier au lendemain de la rencontre Tshisekedi-Kagame au Qatar, rencontre sur laquelle on reviendra dans quelques minutes. Eh bien, ces affrontements ont été constatés autour de la ville de Walikale sur le territoire du même nom. Cela fait plusieurs jours maintenant que les armes parlent dans cette zone, mais pour la première fois, Esdras Dikoumana, le conflit s'est invité au cœur de la ville.
Les premiers affrontements du jour ont débuté à Kembe, une cinquantaine de kilomètres de Walikale centre. C'est une agglomération riche en minerais sur la route qui mène à Kisangani, la capitale de la Tchopo. Des sources locales parlent d'affrontements violents entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par ses alliés Wazalendo. Ces combats sont rapprochés en fin d'après-midi de Mubanda près de Walikale centre. Toujours selon des sources locales et la société civile, la situation est catastrophique. Il y a des tirs ici et là, a expliqué Fiston Bissona, le président de la société civile du territoire de Walikale. Ces détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué la panique dans la cité, poussant la population à fuir vers l'agglomération de Moubi, un peu plus à l'ouest que Walikale centre. Une source sécurité a indiqué à RFI que des éléments des FARDC ont été obligés de se replier également vers Moubi. Et plus au sud, des combats ont été signalés toujours hier entre les combattants Twigo Aneho qui se sont ralliés à l'AFC M23 et les milices locales Wazalendo à Mikenge en territoire de Fizi, quelques 250 kilomètres au sud de Bukavu.
Et sur ce terrain congolais, Esdras Dikoumana, Médecins sans frontières dénonce des affrontements qui ont touché sa base logistique installée justement à Walikale. Les équipes et les patients sont sains et saufs, mais il y a des dégâts matériels. L'ONG déplore une atteinte de trop sur les structures de santé. Avant de quitter le Nord Kivu, un mot également sur cette éruption hier soir du volcan Nyamulagira au nord de Goma. Mais visiblement plus de peur que de mal à en croire l'observatoire volcanologique de la ville. Il indique que la coulée de lave se dirige vers le nord dans le parc national des Virunga. Aucun danger ne pèserait donc sur les Gomatraciens. Et on revient donc maintenant sur cette rencontre qui a eu lieu avant-hier. Vous l'avez peut-être entendu sur RFI, l'émir du Qatar a réuni à Doha les chefs d'État congolais et rwandais. C'était la première rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame depuis plus d'un an. À Doha, ils ont renouvelé leur engagement pour un cessez-le-feu et ont promis de poursuivre ces discussions vers une paix durable. Un entretien qui n'a pas manqué de faire réagir, notamment au sein de la classe politique congolaise évidemment. Mais quelle est la teneur de ces réactions à Kinshasa? Tour de table avec Pauline Azidi.
Cette rencontre a surpris tout le monde, explique Prince Epengue de la formation Lamouka de Martin Fayoulou. Quelle garantie avons-nous que ces réunions au Qatar ne vont pas déboucher sur une situation encore catastrophique, s'interroge le porte-parole de l'opposant. Du côté de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou voit cette rencontre comme, je cite, une manœuvre qui relève du sauf qui peut d'un dirigeant qui veut à tout prix sauver son fauteuil. Le directeur de cabinet du numéro 1 d'ensemble met plutôt en avant la nécessité d'un dialogue congolais. Une position partagée par le PPRD de Joseph Kabila, pour qui la solution au conflit ne viendra que du Congo et des Congolais. Il faut que toutes les armées étrangères quittent notre pays, estime Ferdinand Kambéré, l'un des secrétaires permanents du parti de l'ex-président, et qu'on entame un dialogue. Ces sommets ne servent pas la paix. Tous nos interlocuteurs renvoient à la démarche des religieux de la CENCO-ECC, soutenue par plusieurs partis de l'opposition. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Voilà donc les réactions en RDC après cette rencontre surprise entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et on se pose maintenant une autre question sur RFI. Pourquoi ce rendez-vous a-t-il été organisé au Qatar? Alors qu'on a vu la diplomatie africaine pour le moins patiner dans ce dossier et échouer même à organiser ce face-à-face, eh bien, une explication résiderait dans la nature des relations entre Kigali et Doha, Lucie Mouillot.
Entre Kigali et Doha, les relations sont d'abord économiques, liées notamment au partenariat stratégique destiné à faire du Rwanda le centre de Qatar Airways en Afrique. La compagnie aérienne doit à terme acquérir 49% de Rwandair et 60% du futur aéroport international de Bugesera, un projet colossal en construction estimé à 1,3 milliard de dollars qui doit, dans sa phase initiale, presque quadrupler la capacité de l'aéroport actuel en termes de passagers. Partenaire de confiance, déjà facilitateur du transport et de la libération de Paul Rusesa Baguina en 2023, les autorités de Doha rencontrent régulièrement celles de Kigali. Fin janvier, après la prise de Goma par le M23, le ministre d'État des Affaires étrangères du Qatar se rendait au Rwanda. En février, c'est le président Paul Kagame qui se déplaçait pour une discussion bilatérale avec l'émir, un rendez-vous suivi par un accord préliminaire sur l'exemption de visa pour les ressortissants des deux pays. Une relation privilégiée facilitant le rôle de médiateur entre le Rwanda et la RDC en soutien aux processus régionaux de Luanda et Nairobi. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et après le journal, on ira plus loin sur le volet diplomatique de ce dossier avec notre invité, Monseigneur Fulgence Muteba, qui préside la CENCO, la conférence épiscopale du Congo. Elle est catholique congolais qui souhaite, comme les protestants, un dialogue direct entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23. Audience reportée en France, à Paris, dans le dossier judiciaire d'Agathe Abiarimana. La cour d'appel n'a pas pu étudier les requêtes du ministère public, alors que l'ex-première dame du Rwanda a jusqu'ici échappé aux poursuites dans l'enquête ouverte en 2007 sur son rôle présumé dans le génocide des Tutsis. Le parquet national antiterroriste demande notamment sa mise en examen. L'audience prévue à huis clos hier n'a pas pu se tenir car les différents documents exigés par la cour, notamment les mémoires, n'ont pas été intégralement déposés. Nouvelle audience prévue donc le 21 mai prochain. Une ardoise, ça se règle et le Gabon compte bien en faire la démonstration, prouver aux bailleurs internationaux que Libreville remplit ses obligations. Pour ce live, Laurent Goma, le gouvernement gabonais a annoncé hier avoir décaissé quelque 18 milliards de francs CFA, 27 500 000 euros pour rembourser des arriérés auprès de la Banque mondiale.
Pas de prise de parole publique pour annoncer la nouvelle. Le ministère du budget, des comptes publics et de la dette s'est contenté d'un communiqué écrit. À moins d'un mois de la présidentielle, le gouvernement a tout de même débloqué cette enveloppe de 17 900 millions de francs CFA pour apurer les échéances dues à la Banque mondiale. Ce règlement allège le fardeau de la dette héritée de la gestion antérieure au 30 août 2023, c'est-à-dire avant le coup d'État qui a porté le général Brice Clotaire Oligui-Nguema au pouvoir, a expliqué le gouvernement dans son communiqué. Le bureau local de la Banque mondiale n'a pas confirmé avoir reçu ce paiement. En janvier dernier, dans un communiqué, l'institution exprimait son agacement après l'accumulation des arriérés chiffrés alors à 17 milliards de francs CFA. La Banque mondiale n'est pas l'unique bailleur de fonds qui presse le Gabon à payer ses dettes. L'an dernier, le président de la Banque africaine de développement était venu en personne à Libreville à ce sujet. Yves Laurent Goma, Libreville. RFI.
La décision inquiète probablement beaucoup de voyageurs. Elle vient des États-Unis, cette décision, où Donald Trump a signé en janvier un décret qui exige un contrôle de sécurité renforcé pour tous les étrangers souhaitant entrer sur le territoire américain. Un texte qui demandait également à l'administration américaine de soumettre d'ici le 21 mars une liste de pays pour lesquels un travel ban pourrait être mis en place. Un travel ban, c'est-à-dire une interdiction partielle ou totale pour les voyageurs de ce pays de se rendre aux États-Unis. Or, le 21 mars, eh bien, c'est demain, et pour l'heure, 22 pays africains figurent sur cette liste à des degrés divers. À Atlanta, Edouard Maille a regardé le détail pour nous.
Trois catégories de pays, rouge, orange et jaune. La première, la plus stricte, une interdiction totale d'entrée sur le territoire américain. On y trouve parmi d'autres la Libye et le Soudan. Deuxième catégorie, qui empêche la délivrance de visa, mais avec des exceptions. Il y a l'Érythrée, la Sierra Leone et le Soudan du Sud. Et la dernière, la moins contraignante, avec 22 pays dont 16 en Afrique, comme le Burkina Faso, la République du Congo, la RDC, le Bénin, le Tchad ou le Mali. Ces pays auraient alors 60 jours pour rectifier aux yeux de Washington des carences sécuritaires, que ce soit pour le partage d'informations sur les voyageurs ou les modalités de délivrance des passeports. Le cas échéant, ces pays pourraient être placés sur les listes plus strictes. Il n'y a pour l'instant pas d'indication si les personnes qui ont déjà un visa seront concernées. Néanmoins, les sources anonymes citées par le New York Times indiquent que ces listes ne sont pas définitives et doivent encore être retravaillées pour être validées par la Maison Blanche. Édouard Maï, Atlanta, RFI.
Le gouvernement du Niger qui fait machine arrière après avoir expulsé il y a une semaine les directeurs de trois grandes sociétés chinoises, la Soraz, la CNPC et Wabco, tout engagé dans l'exploitation du pétrole nigérien, accusé notamment d'être responsable de la pénurie d'essence qui sévit au Niger depuis une dizaine de jours. Eh bien, dans un point presse hier, le ministre du pétrole nigérien, Sahabi Oumarou, a appelé la Chine finalement à la négociation en assurant que le pouvoir n'avait aucune volonté de rupture avec un partenaire aussi important. Se priver de manger la journée, eh bien, cela ne veut pas dire cumuler les excès pendant la nuit. Voilà la mise en garde des professionnels de santé pour les musulmans en ce mois saint de Ramadan. Une fois venu le temps de l'iftar, le ftour pour les maghrébins, les fidèles ont tendance à compenser le vide du jeûne et à accumuler les aliments gras, accumuler le sucre également. Prudence pourtant, écoutez ce que nous en dit le docteur Aissatou Mamadou Fall, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste.
Il y a énormément de sucre qu'on met dans le café, puis il y a le sucre qu'il y avait dans les dattes. Il y a le jus de fruits qu'on boit en grande quantité pendant le ramadan, les viennoiseries, donc ça fait qu'il y a une grande charge de sucre qu'on mange au moment de la rupture malheureusement pendant le ramadan, ce qui fait également qu'on ne profite pas assez des bienfaits du ramadan. Parce que si on prend du sucre en très grande quantité, on prend du sucre, mais beaucoup de sucre, surtout les sucres dits rapides, dans la soirée. Alors dans la soirée, on fait très peu d'efforts, voire pas du tout. Il y en a qui ne font pas du tout de sport. Ce qui va se passer, c'est que le corps va prendre cet excès de sucre dont il n'aura plus du tout besoin. Il va le transformer en graisse pour le stockage. Et l'impact final, c'est que les personnes qui en consomment trop vont finir par prendre plusieurs kilos après le mois de ramadan au lieu d'en perdre. On se retrouve au final, si on a une pathologie comme le diabète, avec une hyperglycémie le soir, et on le voit très souvent. Sinon, on se retrouve avec certaines personnes chez qui des pathologies comme le diabète ou l'hypertension artérielle qui se révèlent pendant le mois de ramadan.
La docteur Aissatou Mamadou Fall, on l'a compris, il faut donc bien souvent changer les menus en période de ramadan. Et pour ceux qui seraient à court d'idées, eh bien, les réseaux sociaux, une fois n'est pas coutume, peuvent être de bons conseils. Les influenceuses y proposent des repas équilibrés, Juliette Dubois.
Sur sa page Instagram BeWell, Ndeira Didia donne des conseils pour un dogu sain.
Salam alaikum famille Biwel, j'espère que yene ngi ci jam. Tay nak ci walu ndogu bi ak rer bi. Lay bëgg waxtaan ak yene.
Cette coach en nutrition et restauratrice s'est rendue compte que beaucoup de ses compatriotes faisaient des excès alors que le repas du soir est un moment clé.
Il s'agira de rapporter des nutriments au corps, des nutriments qu'il n'a pas eu pendant la journée et dont il a besoin pour fonctionner, mais en sélectionnant ce qu'on va apporter. Juste après le moment de la rupture du jeûne, les premiers aliments qu'on va manger sont vraiment déterminants sur la manière dont le corps va les utiliser.
Il faut veiller à bien s'hydrater et limiter le sucre et le gras. Elle propose aussi des boxes de nourriture salée et sucrée pendant le ramadan avec des petits plats équilibrés pour se faire plaisir raisonnablement.
Là, nous avons des gâteaux avec de la patate douce et de la pomme. Et les cookies aux pépites de chocolat sont faits avec de l'avoine. Donc, ce sont des choses sucrées qui restent très saines. Les tartelettes, c'est la même chose. Toutes ces tartes salées, la quantité de fromage que nous mettons dedans, elle est vraiment mesurée. Ça va pas être quelque chose qui va dégouliner de fromage.
Côté salé, Ndeï limite les cuissons à l'huile et favorise les légumineuses. Pendant le ramadan, il est conseillé de prendre trois repas entre le coucher et le lever du soleil et de bien veiller à consommer suffisamment de fibres et de protéines. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Eh oui, les légumineuses, on ne le répétera jamais assez. 7h43 ici à Paris, votre matinale continue. On retrouve Marion Casanova.